La marche du monde. Valérie Nivelon.
La marche du monde est à Berlin sur les traces de son passé colonial, oublié par les Allemands. Et pourtant, le gâteau africain s'est partagé ici, à la fin du 19e siècle. Le chancelier Bismarck réunissait les puissances européennes pour organiser les règles de la colonisation. Et pendant 35 ans, de 1884 à 1919, l'Allemagne a été un empire colonial comme les autres, mais ce passé semble effacé. Avec Oumar Diallo, directeur de Africa Haus, nous partons sur les traces du Berlin colonial et de la présence africaine à Berlin.
Africa Haus, bon, Haus c'est la maison.
C'est ça.
Voilà, et puis bon, mais les deux mots sont associés. Nous avons des amis allemands qui s'intéressent à l'Afrique, qui s'intéresse au programme de la maison.
Et donc, là, dans le quartier, vous aimez aussi mettre en avant...
Tchuss.
Voilà. Et donc ici devant la façade de Africa Haus, la maison de l'Afrique, ici à Berlin, vous aimez mettre en avant des personnalités africaines qui ont marqué l'histoire de la communauté noire, mais qui vous ont marqué vous aussi.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que des personnalités que nous trouvons intéressantes. Il y a Dubois, par exemple.
W.E.B. Dubois.
Voilà, Dubois. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est qu'il a vécu pendant 2 années.
Ici à Berlin.
À Berlin, ici. À la Humboldt Université et tout.
Il est l'ancêtre du panafricanisme.
Voilà, c'est l'ancêtre du panafricanisme.
Le panafricanisme,
voilà. Et donc, Nkrumah, président du Ghana, et puis Alioune Diop aussi, présence africaine. C'est-à-dire que nous, on a voulu assurer une certaine visibilité de la présence africaine à Berlin.
C'est ça.
Le nom que nous aimons beaucoup, c'est présence africaine.
Donc pour vous, Africa Haus, la maison de l'Afrique, c'est la présence africaine à Berlin.
Voilà, c'est ça. Donc ces personnalités, nous les mettons en valeur ici. Il y a Barthélémy Boganda aussi, qui est présent dans la maison, Amical Cabra, qui est présent dans la maison. Voilà, et donc vous allez rentrer maintenant dans la maison de l'Afrique.
Je peux me permettre, Oumar Diallo, vous n'avez pas de femme dans votre panthéon?
Ah si, quand même, nous avons... Non, mais il y a Myriam Makeba. Il y a une école primaire qui s'appelle Myriam Makeba Choulé, qui est juste à côté de la maison de l'Afrique. Il y a un film qui a été fait sur Myriam Makeba, et moi j'ai été invité pour parler un peu de Myriam Makeba, que bon... Je l'ai connue comme ça quand elle a vécu en Guinée. Et donc, je parlais de mes souvenirs d'enfance. Donc, Myriam Makeba, elle est présente dans la maison aussi.
Sangoyamawa. Sangoyamawa. Iwete ya tiki biso. Nampasi namotema. Tango ya koka kite Beti ponso atiki pisoye.
Alors, nous arrivons maintenant à la maison de l'Afrique et donc, bienvenue.
Willkommen donc dans cette Africa Haus à Berlin. Bienvenue dans cette Africa Haus à Berlin où vous nous accueillez. Omar Diallo, merci beaucoup. Il y a ici toute une discussion, toute une réflexion au fond sur ce que c'est d'être un Africain à Berlin.
Absolument.
C'est aussi ça, la
Absolument.
Maison de l'Afrique.
Oui, oui. Et la Maison de l'Afrique, c'est ça. C'est-à-dire que, premièrement, il faudrait se rendre compte que c'est une présence réelle qui date de plus de 300 ans. Et donc, nous avons cherché donc, à faire un travail assez modestement de recherche historique, savoir d'abord les premiers qui ont vécu. Voilà, les premiers Africains qui ont vécu ici, quand l'Allemagne avait des colonies, d'abord il y a eu la première exposition déjà de zoos humains, si on peut dire ainsi, c'est-à-dire que des gens qu'on a fait venir,
pour
les exhiber, merci, parce que l'Allemagne avait des colonies en Afrique de l'Est, actuelle Tanzanie, Rwanda, avait des colonies en Afrique de l'Ouest, le Togo, l'Allemagne avait des colonies au Cameroun, et il y avait aussi la Namibie. Et donc, des gens sont venus d'autres colonies encore. Mais moi, ce qui me paraît intéressant, c'est les gens qui sont venus des anciennes colonies africaines allemandes à Berlin. Et certains, après l'exposition, sont restés. Alors, il y a un personnage assez intéressant ici. C'est Martin Dibobé, qui est venu lors de l'exposition à Berlin, coloniale à Ausstellung, 1901-1902, et il est resté après. Il est venu à l'âge de 14 ans à peu près, c'est intéressant. Il a fait sa formation ici, il a appris l'allemand, il est devenu conducteur de train. Et donc on le voit ici en uniforme de conducteur de train. Et là, ça date déjà de 1901.
Donc cela veut dire, Oumar Diallo, qu'à la faveur de cette exposition coloniale berlinoise de 1901, oui. Martin Dibobé, oui. qui fait partie de ces premiers Africains exhibés
voilà, c'est ça.
Dans les eaux humaines,
voilà,
ici à Berlin, oui. Eh bien lui, il n'est pas rentré.
Il n'est pas rentré.
Il n'est pas rentré dans sa colonie, oui. Il est resté ici
il
à
est
Berlin.
Resté ici.
Il a fait sa vie, lui, il a pu s'adapter,
il a pu s'acclimater.
Et donc, il est l'un des premiers oui. Africains allemands.
Oui, absolument, absolument. Et donc, vous avez Dibobé en uniforme de conducteur de train.
Avec sa casquette.
Avec sa casquette, merci. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les portraits que nous voyons en ce moment, ce sont des photos qu'on a pu aujourd'hui récupérer. C'est-à-dire que ce sont des personnes aujourd'hui qui ont eu... si je peux dire, une identité, une carte d'identité, qui ont été baptisés et tout. Mais les premiers, par contre, qui sont venus ici comme domestiques et qui étaient là comme employés de maison et tout, donc on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. Donc il n'y a aucune trace de ces personnes-là.
Ici, dans la maison de l'Afrique, à Berlin, nous découvrons Oumar Diallo, un travail finalement qui a démarré il y a bientôt 10 ans. C'est une exposition qui va devenir l'exposition permanente de l'Africa House. C'est la façon dont les Africains justement se sont imposés ici culturellement à Berlin à travers différentes figures. Et vous souhaitez maintenant nous présenter Gustav Sebald.
Il est né le 10 mars 1868 à Berlin. Son père vient probablement de l'actuel Soudan.
Oui.
Et lui, il a eu la chance, si on peut dire ainsi, de faire des études ici. Il a gravi tous les rangs jusqu'au rang d'officier dans l'armée allemande et tout. Et donc, quand on s'intéresse à cette histoire, on voit que les premiers qui sont restés, ils ont eu des problèmes à la montée du national-socialisme. Donc, on a perdu les traces des premiers Africains qui sont venus pendant le national-socialisme.
À la fin des années 30, voilà. Un personnage comme Gustav Sebald-Kelscher, il ne peut plus rester dans l'armée allemande voilà, pour des raisons de racisme d'État.
Voilà.
C'est ce que vous voulez nous dire,
voilà, c'est ça. Alors, il y a un autre personnage aussi, une personne aussi très intéressante aussi, il me semble, c'est Mohamed Houssen. Oui. Mohamed Houssen a été mercenaire dans l'armée allemande. Et après la guerre, il est venu en Allemagne. Il s'est installé à Berlin ici. Il a joué des rôles dans des petits films allemands de propagande à l'époque.
Dans les années 20, les années 30.
Voilà, c'est ça. Et il a perdu la vue dans un camp de concentration. C'est-à-dire que ce sont des Noirs aussi qui ont été victimes du nazisme et tout. Donc il a été déporté, il est mort à Sachsenhausen. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 ou 4 ans à peu près, des pavés ont été installés.
Et on lui rend hommage.
Voilà, on lui rend hommage.
Ici à Berlin.
Ici à Berlin.
Son nom est gravé sur le sol, de la même façon que le nom des Juifs déportés sont gravés sur le sol ici à Berlin.
Absolument.
Depuis 1993, et à l'initiative d'Oumar Diallo, la Maison de l'Afrique fédère une 20aine d'associations unies dans leur volonté d'inscrire une présence africaine à Berlin. Et si l'exposition permanente d'Africa House permet d'en découvrir les figures pionnières, elle permet également de répondre aux interrogations de toutes celles et ceux dont la vie se construit durablement en Allemagne, à l'image d'Oumar Diallo, parti dès 1972 de son pays natal.
Moi, je me définis comme un enfant de la décolonisation. Je suis né en Guinée et mon pays a accédé à l'indépendance en 1958. On peut dire beaucoup de choses de la politique africaine pratiquée à l'époque, mais il y a eu quand même un souci de réhabilitation, si je peux dire, de l'histoire africaine et tout. Et
sous ses couturiers.
Sous ses couturiers, voilà. Et donc, nous, on a été imprégnés par cette histoire, par cette révolution. Et
à l'école, à Cancan.
À Cancan, oui, là, oui.
Donc,
c'est-à-dire que j'ai entendu le mot Berlin pour la première fois quand j'étais à l'école primaire en Guinée. Et ce qui est intéressant aussi à dire, c'est que la conférence de Berlin était qualifiée de conférence de la honte. On ne disait jamais conférence de Berlin, mais on disait toujours la conférence de la honte. Et donc, je viens à Berlin, donc je suis curieux de savoir donc, où cette conférence a eu lieu et tout. Et donc, je ne vois rien du tout. Aucune présence africaine, aucune plaque commémorative et tout, on n'en trouvait pas du tout. Et donc, là, j'étais curieux. Et chaque fois que j'en parle avec mes amis allemands, ils me disaient, de très bonne foi d'ailleurs, « Oh, vous savez, les Allemands n'ont pratiquement pas participé à la colonisation. » Et nous, on voulait comprendre. Question à l'histoire. On a toujours voulu questionner l'histoire. Qu'est-ce qui s'est réellement passé et tout. D'ailleurs, c'est une histoire commune, d'ailleurs. Mais il y a une partie qui avait été gommée, pratiquement.
Un trou de mémoire.
Trou de mémoire, merci, voilà. C'est-à-dire qu'il y avait un trou de mémoire et les autorités allemandes n'en parlaient pas. L'Afrique, on n'en parlait pas. L'Afrique n'existait pas. Et donc, nous, à force de ne rien voir... Et nous, on a cherché, on a continué à chercher les traces de l'histoire coloniale à Berlin.
Nous cherchons donc la rue Wilhelmstrasse.
Voilà. Nous sommes sur Wilhelmstrasse.
Alors,
ça doit être là exactement.
Et là, nous cherchons en fait une stèle.
Alors là, mais je ne... J'ai l'air tout à fait de me perdre, là, cette fois-ci. Ça, c'est une quête.
Si une petite stèle a fini par être posée sur la Wilhelmstrasse, à l'endroit même où se trouvait la chancellerie accueillant la fameuse conférence de Berlin, très très peu de traces de ce passé colonial sont visibles dans la capitale allemande. Pour preuve, la façade toute blanche de l'ancienne société de colonisation allemande, première maison de l'Afrique à Berlin.
Africa House.
Ah, elle s'appelait Maison de l'Afrique.
Oui, Maison de l'Afrique. Justement, voilà, Maison de l'Afrique.
Et vous en parlez dans votre exposition.
Voilà, j'en parle dans mon exposition. Et ce qui est intéressant avec cette maison, c'est que l'architecture, la structure en elle-même est restée intacte, puisqu'on a beaucoup d'édifices qui ont été détruits pendant
la Deuxième Guerre mondiale.
Dans la Deuxième Guerre mondiale et tout. Il y a les traces de balles et sur certaines maisons, mais elle est restée intacte exactement comme au temps où la société africaine de colonisation avait son siège ici. Elle est restée intacte, la façade et toute cette architecture.
Alors, est-ce qu'il y a des symboles du colonialisme qui auraient été retirés ?
Il y a des symboles du colonialisme qui ont été retirés. Quand on voit les photos d'archives, par exemple, on voit la maison exactement comme elle est. Mais là où nous voyons ici le numéro 10, à cette place-là, c'était écrit exactement au milieu « Africa House ».
Au-dessus du porche.
Voilà, c'est ça, voilà. Et puis... Il y aurait des symboles pour les Allemands d'exotisme ou d'africanité qu'ils avaient gravés.
Alors l'éléphant était un symbole justement d'exotisme.
D'exotisme, voilà,
à l'époque
coloniale. Alors il y avait des symboles pour symboliser le fait que c'était le règne impérial de l'Allemagne, assurer la présence allemande en Afrique. Et ils avaient 43 000 adhérents.
43 000
vous vous rendez compte?
Il n'y a donc aucune plaque explicative pour signifier la présence historique de l'ancienne Maison de l'Afrique ici à Berlin. Un exemple parmi d'autres de l'effacement de ce passé colonial allemand dont la recherche historique semble enfin s'emparer. Né en Namibie, l'historien Joachim Zeller n'avait jamais entendu parler de ce passé colonial. Mais sa curiosité à l'égard des plaques d'identification des Africains Nama et Herero, conservées dans sa famille, l'ont conduit à devenir docteur en histoire et l'un des meilleurs spécialistes de la question des monuments coloniaux.
Manche kolonialen Erinnerungsorte in Berlin.
Certains lieux de la mémoire coloniale à Berlin ont déjà été marqués par des plaques commémoratives. Ce n'est pas le cas de l'ancienne Maison de l'Afrique. C'est un manquement que nous devons certainement corriger dans les années à venir. Donc peu de lieux à Berlin liés à l'histoire coloniale sont déjà marqués par des plaques commémoratives ou des monuments. Et l'ancienne maison de l'Afrique, située au 10 rue Karlsbad, n'en fait pas partie. Peu de gens savent qu'avant et après la Première Guerre mondiale, elle était le siège de la Société allemande de colonisation, la plus importante association de lobbyistes du mouvement colonial allemand.
Joachim Zeller, c'est très intéressant qu'aujourd'hui, Omar Diallo, qui est donc un Africain qui vit ici à Berlin, en quelque sorte se réapproprie ce nom de Maison de l'Afrique, mais évidemment pour en faire toute autre chose.
Das was Omar Diallo mit seinem modernen Afrika-Haus gemacht hat.
Ce qu'Omar Diallo a fait avec sa Maison de l'Afrique moderne est typiquement une initiative postcoloniale.
Er hat nämlich diesen Titel Afrika-Haus.
Il a transformé cet intitulé Maison de l'Afrique en un acte d'émancipation.
In dem Menschen der afrikanischen Diaspora
en permettant aux membres de la diaspora africaine de dire « Nous sommes là et nous faisons partie de Berlin ».
Was wichtig ist, sich vor Augen zu halten, es sind Menschen der afrikanischen Diaspora.
Il est important de souligner que ce sont des membres de la diaspora africaine qui ont réécrit cette partie de l'histoire et non pas les Blancs.
Ich will es auf den Punkt bringen.
Pour résumer, des militants féminins et masculins, des membres de la diaspora africaine sont incontournables.
Sie haben ganz wesentlich in den letzten 2-3 Jahrzehnten dazu beigetragen.
Au cours des 2 ou 3 dernières décennies, ils ont participé de manière significative au fait que l'Allemagne commence enfin à faire face à son histoire coloniale, histoire que le pays a longtemps occultée. Et le résultat de cette nouvelle perception de nous-mêmes, c'est le constat que nous sommes une société cosmopolite.
En ce qui concerne la question de la reconnaissance du génocide des Nama et des Herero en Namibie, Joachim Zeller, on en est où justement ?
Premièrement, on peut retenir qu'aucun monument ne rappelle à Berlin le génocide des Herero et des Nama. Pour prendre un autre exemple, quand en 2005 la plaque commémorative de Namibie a été installée au cimetière Garnisonfriedhof à Berlin, le ministère des Affaires étrangères a empêché que le terme « génocide » ne figure sur l'inscription. Certes, le gouvernement fédéral parle désormais également de génocide, mais la reconnaissance formelle et la demande officielle de pardon reste toujours en suspens, et ce, alors que l'Allemagne et la Namibie sont aujourd'hui en négociation.
Joachim Zeller, dans vos recherches, vous avez signalé que, par exemple, dans la ville de Munich, la rue qui portait le nom du général von Trotha, qui est celui qui a donné l'ordre du génocide, est devenue la rue Herero. Est-ce qu'on peut imaginer que la même chose se passe ici à Berlin ?
Ce qui s'est passé à Munich, à savoir le changement de nom de la rue Trotha en rue Herero, était un pas important qui allait dans la bonne direction. Un même processus pourrait tout à fait se dérouler à Berlin. Ici, dans le quartier africain de Berlin, on est également en train de changer les noms des rues pour leur donner des noms d'Africains qui se sont battus pour la liberté.
Ce sera la victoire de qui, ces changements de nom ?
Ganz klare Antwort. Es ist weniger das Verdienst der Historiker.
La réponse est claire, c'est moins le mérite des historiennes et des historiens qui travaillent à l'université que le mérite d'initiatives de la société civile et des membres de la diaspora africaine. C'est eux qui ont porté cette bataille pour obtenir le changement de nom de ces rues.
Omar Diallo.
Oui, mais non, mais je dis tout de suite non, que je ne suis pas d'accord avec cette vision de Joachim concernant la victoire donc de la société civile et des associations africaines, pour la simple raison que cette victoire, nous la devons à toutes les personnes.
Je veux
D'un côté, je suis d'accord avec Omar Diallo. De l'autre, j'aimerais le contredire. Naturellement, des historiennes et des historiens sont nécessaires pour faire la lumière sur cette partie de l'histoire. Et en ce sens, il s'agit en effet d'un travail collectif. Mais la capacité d'imposer politiquement ces changements de nom de rue, c'est sans aucun doute grâce aux initiatives de la société civile. La perception que nous, les Blancs, nous avons eue en Europe, que l'on soit Allemand, Français, Italien, selon laquelle le colonialisme était une mission de civilisation, cette perception appartient au passé.
Merci beaucoup, Joachim Zeller. Je crois qu'une petite virée dans le quartier africain ici à Berlin s'impose.
D'accord, voilà.
Omar Diallo, nous voici sur le terrain.
Alors, nous sommes donc à Wedding.
Wedding.
Alors, Wedding, c'est là où se trouve das Afrikanische Viertel. C'est-à-dire le quartier africain.
Le quartier africain.
Voilà. Et là, nous sommes sur la rue africaine, die Afrikanische Straße. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est une rue principale qui traverse tout le quartier africain. Et à partir de cette rue principale, on a 23 noms d'anciennes colonies allemandes.
Par exemple.
Alors, par exemple, on a Togostrasse. De l'autre côté, on ira tout de suite. Et Togostrasse, c'est la première rue qui porte le nom du pays Togo, qui à l'époque était une possession allemande. Et donc, on a les anciennes possessions allemandes. Vous avez des personnalités qui ont joué un rôle dans l'évolution du colonialisme en Allemagne. Et là, cette place, ça s'appelle Nachtigallplatz.
Nachtigallplatz.
Alors, Nachtigall, c'était un géographe qui a beaucoup contribué à l'expansion du colonialisme en Afrique. Et aujourd'hui, il y a une grande discussion justement autour de ces personnalités qui sont très, très contestées. Et donc, le Parlement local a voté une loi en mars 2018. Et cette loi stipule que l'époque à laquelle nous vivons, on ne peut plus se permettre de laisser des traces qui, en quelque sorte, portent préjudice à l'image de l'Allemagne, à l'image de la ville. Et c'est ce que le Parlement local a décidé. Et par conséquent, il faudrait donc débaptiser cette place.
Omar Diallo, il faudrait débaptiser donc la Nachtigallplatz, mais également deux autres rues qui posent problème. Quels sont les noms de ces deux autres rues?
Alors, nous avançons en ce moment vers la Petersallee.
Petersallee.
Voilà. Alors, la Petersallee pose également problème.
Donc, c'est l'allée de Peters, en fait.
Voilà, c'est ça.
Alors, qui était Peters?
Alors, Peters, Karl Peters était le fondateur donc, de la Société africaine de colonisation qui a, par des actions brutales, exterminé un nombre très important de personnes en Namibie, à l'époque où la Namibie était sous occupation allemande. Et il a agi de façon tellement violente qu'il a été rappelé à l'époque à Berlin.
Par le gouvernement allemand de l'époque.
De l'époque.
Hein, sous Bismarck.
Voilà, c'est ça. Il a été rappelé. Et quand les nazis sont revenus au pouvoir, on l'a réhabilité en quelque sorte.
D'accord, donc à partir de 1933, voilà. Quand Hitler arrive au pouvoir, les nazis réhabilitent.
Et il a eu l'honneur d'avoir une rue qui porte à son nom.
Donc c'est comme si, en Allemagne, dans la mémoire collective, on avait totalement oublié cette période qui va de 1884 à 1919, lorsque l'Allemagne est perdante de la Première Guerre mondiale et qu'elle perd ces fameuses colonies.
Voilà.
Et bien c'est comme si ces 30 ans d'impérialisme allemand avaient été oubliés.
Absolument. Donc il y a un trou de mémoire. Et donc ce trou de mémoire maintenant, grâce donc au travail remarquable qui a été fait par les historiens allemands, par la société civile.
Et par l'association postcoloniale.
Par l'association postcoloniale.
Qui est extrêmement militante.
Voilà. Et donc grâce à ce travail, maintenant, il y a une prise de conscience. Ils ont prise de conscience aboutie maintenant à débaptiser certaines rues dans le quartier africain de Berlin, à Wedding.
Donc dans ce quartier de Wedding, ce quartier africain de Berlin, le conseil municipal, le parlement local, a bien voté une loi qui permettra de débaptiser trois rues, on rappelle leur nom.
Voilà.
il y a donc Peter Salé, Natigal Place et puis Lüderitzstraße.
Est-ce que vous avez une idée de la façon dont on va les rebaptiser?
Alors, Natigal Place sera, une partie va s'appeler Belle Place.
En quel hommage?
Hommage à Mangabel, personnage énigmatique, prince du Douala. Mangabel n'était pas contre la colonisation allemande, mais il s'est engagé en tant que prince pour défendre les intérêts de son peuple.
Et d'ailleurs, dans l'exposition de Africa House, il y a un panneau qui est consacré à ce personnage Mangabel qui fait partie de cette histoire commune entre l'Allemagne et ses anciennes colonies.
Voilà. Nous avons donc la Natigal Place qui deviendra Belle Place, Mangabel. Et nous avons donc la Peter Allee qui va prochainement s'appeler Anna Mangundu Allee, qui est une femme originaire de Namibie. C'est la première Namibienne qui a été décorée quand la Namibie a accédé à l'indépendance grâce à son engagement contre le colonialisme. Et donc, elle va être honorée ici, Peter Salé. Et puis, donc, il y a la Lüderitzstraße qui va s'appeler Corneliusstraße. Donc, Robert Cornelius, qui est un Namibien, un farouche opposant au système colonial allemand et au système répressif allemand en Namibie.
Donc un militant namibien anticolonial, voilà, au temps de la guerre menée par les Allemands, en Namibie, contre les Herero
et les Nama.
Oumar Diallo, après la Togo-Strasse, Cameroun-Strasse, nous arrivons sur...
La Ghana-Strasse. Oui. Alors Ghana-Strasse, c'était très intéressant,
oui,
puisque dans ce quartier africain, encore une fois, nous avons 23 rues qui portent des noms...
De colonies.
De colonies, voilà, ou de fleuves africains,
oui,
mais tout ce qui a trait justement à la colonisation allemande. Mais la seule rue,
oui,
qui n'a rien à voir avec l'histoire coloniale allemande, c'est la Ghana-Strasse.
Pourquoi?
Cette rue a été baptisée Ghana-Strasse en 1957, c'est-à-dire que 1958, le Ghana a accédé à l'indépendance.
Et c'est ça.
Donc en hommage à un État indépendant.
En hommage au premier État indépendant.
C'est ça.
Dont le président, premier président était Kwame Nkrumah.
Kwame Nkrumah, voilà, c'est ça. Et intéressant aussi, Kwame Nkrumah a été reçu ici en grande pompe.
Ah
et
oui?
Il a été même décoré docteur honoris causa de la Humboldt Université.
Ici à Berlin.
Voilà.
Sur RFI, nous parcourons la ville de Berlin, la recherche de sa mémoire coloniale méconnue. 35 ans d'un empire qui s'est distingué par la violence de la répression à l'égard des Africains de l'actuelle Namibie, puisqu'il s'agit du premier génocide du XXe siècle, mais aussi du Togo, du Cameroun et de vastes territoires dans l'est du continent. Après avoir parcouru le quartier africain de la capitale allemande avec Oumar Diallo, l'initiateur de Africa House, la maison africaine de Berlin, nous allons rejoindre Christian Kopp, l'un de ses amis activistes de l'ONG baptisé Berlin post-colonial. Fort d'une soixantaine de groupes dans toute l'Allemagne, Berlin post-colonial veut sensibiliser les Allemands à leur passé, mais aussi agir pour la récupération de la mémoire des anciens colonisés en rebaptisant les noms des rues ou encore en restituant les crânes et les corps toujours conservés au CHU de Berlin.
Centre de recherche universitaire, voilà. C'est un centre de recherche universitaire avec un hôpital. C'est là, c'est le lieu où on pratiquait les expériences au temps où l'Allemagne avait ses colonies. Les corps étaient transférés ici, on mesurait les crânes, on faisait toutes sortes de recherches sur les crânes humains. Et donc ils ont encore beaucoup d'ossements humains dans ce centre-là. Et le problème qui se pose maintenant avec les ossements humains, c'est qu'on ne sait plus exactement de quel pays proviennent ces ossements humains. Il y a eu déjà 3 opérations de rapatriement des ossements humains en Namibie. Et là, c'était quand même assez précis, puisque les crânes étaient numérotés, il y avait les noms sur les crânes. Et là, on pouvait tout à fait les rapatrier. Pour les autres, ça pose un certain nombre de problèmes d'identification. Et je pense que c'est dans ce cadre-là, maintenant, le postcolonial qui est quand même très engagé sur ces problèmes de restes humains. Ossements et restes humains qui sont encore en dépôt ici.
Allô? Allô? Tu es déjà lange hier?
Ja.
Oh. C'est un plaisir.
Bonjour, Christian Kopp.
Allô?
Et merci beaucoup de nous accueillir dans cette université de Berlin. Pourquoi vous avez répondu à l'invitation de l'université pour faire cette exposition autour de la mémoire coloniale?
Il faut savoir que le personnel était formé, que ce soit les officiers ou la fonction publique de la colonie. Les gens étaient formés à l'université, aux langues et à d'autres sciences. Et c'est essentiel parce que l'université faisait de la recherche, des recherches racistes sur les restes humains, amenés ici en très grand nombre, surtout pendant le colonialisme allemand.
Omar Diallo, cela veut dire que dans cet amphithéâtre, juste derrière nous, il y a eu des restes humains qui ont été exhibés par les scientifiques allemands pendant la colonisation allemande.
Effectivement, pour pouvoir justifier les théories raciales, pour pouvoir justifier la supériorité de la race blanche par rapport aux Africains, et donc on a procédé ici à des expérimentations sur des personnes humaines pour des recherches scientifiques afin de justifier la théorie de l'infériorité de la race.
And I would be very happy if we could achieve that all the human remains.
Et je serais très heureux de pouvoir parvenir à ce que tous les restes humains prélevés dans les anciennes colonies allemandes, présents dans des collections très différentes en Allemagne, puissent être restitués dans les années à venir.
How can we live with these?
Comment pouvons-nous continuer à supporter cette situation? C'est incroyable. Il n'est pas normal que ces recherches se poursuivent. Nous devrions arrêter ces recherches et nous devrions simplement les rendre à leurs ancêtres ou à leurs descendants.
Oui, c'est la question du deuil et il faudrait peut-être aussi continuer le travail à ce que les restes humains qui sont là puissent donc retourner dans les pays d'origine et être enterrés dans la dignité. Et on ne peut plus refaire l'histoire, mais par contre, on peut faire en sorte que tout se passe de façon à ce que les gens retrouvent leur pays d'origine, qu'ils se réconcilient avec la propre nature et qu'ils reposent finalement en paix.
La question de la restitution du patrimoine africain est aujourd'hui posée dans toutes les sociétés post-coloniales et l'Allemagne n'est plus une exception. Accueilli ici à Berlin par le Guinéen Omar Diallo, directeur de l'Africa House, je lui propose un dialogue avec Bénédicte Savoie, française de Berlin, titulaire de la chaire Histoire culturelle des patrimoines artistiques en Europe au Collège de France et co-auteur avec Félouine Sarr du rapport sur la restitution du patrimoine africain demandé par le président Macron.
Je crois qu'en effet, il y a eu, et il n'est pas le seul à le croire, les historiens ont un consensus là-dessus, une amnésie coloniale ici, en Allemagne, mais qui, de mon point de vue français, ne me paraît pas finalement si éloignée de l'amnésie coloniale française. Cette amnésie coloniale, ce que certains appellent l'amnésie coloniale allemande, elle est doublée du fait d'une invisibilité de l'Afrique, beaucoup plus grande que ce qu'on peut connaître en France. Et du coup, la redécouverte de ce passé colonial est plus troublante pour les Allemands, sûrement plus troublante que pour les Français qui, néanmoins, malgré cette présence africaine évidente et joyeuse en France, connaissent très mal leur passé colonial. Et si je peux faire un tout petit détour biographique, un enfant français né dans les années 70 comme moi a eu dans sa scolarité 3 semaines sur la décolonisation, vers l'âge de 17 ans, 18 ans, sans avoir jamais avant, dans mon cas, entendu parler de la colonisation. Alors on arrive en terminale, on entend parler de la décolonisation, de l'Indochine, de l'Algérie, de l'Afrique, et puis on n'a jamais entendu parler de la colonisation, c'est très bizarre.
Bénédicte Savoie, alors je suis d'autant plus heureuse de vous présenter Oumar Diallo, qui est ici justement l'initiateur du projet Africa House, qui est une maison de l'Afrique qui existe depuis maintenant 25 ans. Et figurez-vous que Oumar Diallo, lorsqu'il arrive ici à Berlin dans les années 80, la première chose qu'il fait, il cherche le lieu où on a partagé l'Afrique, Oumar Diallo.
Oui, je cherche, je ne trouve rien du tout. Et je demande à mes amis allemands, on me répond le plus souvent, vous savez, l'Allemagne n'a pas de passé colonial. La colonisation, peut-être qu'il faudrait voir ça du côté des Français ou des Anglais. Et tout, nous, on n'a pas eu d'histoire coloniale. Et certains se disaient, non, pardon, mais là, c'est une période assez courte. C'est très insignifiant. Donc, il n'y a pas eu vraiment d'histoire coloniale et tout. Et donc, on cherchait, on ne retrouvait pas les traces, on ne retrouvait personne qui pouvait nous donner des renseignements, des indications précises et tout. Et c'est très intéressant ce que vous dites là. Et donc, il y avait une invisibilité, en quelque sorte, de ce pan de l'histoire. Et nous, maintenant, nous nous sommes donné comme objectif maintenant de rendre ce passé visible.
J'aimerais bien rebondir directement là-dessus pour dire à quel point c'est absent ici à Berlin, ou c'était absent, car je crois que le travail que vous menez permet d'avancer à grands pas, et en quelques mois déjà la prise de conscience est en train de se faire. On voit les débats, y compris jusqu'au Bundestag, ça bouge, vous réussissez à faire extrêmement bouger les choses très vite. Mais voilà, jusqu'à maintenant, jusqu'il y a quelques mois, Berlin pour un Berlinois, c'était sa ville, absolument, c'était son environnement, c'était là où habite sa grand-mère, mais c'était sûrement pas quelque chose qui était en lien avec l'histoire de l'Afrique.
Et Oumar Diallo, Bénédicte Savoie m'a même parlé de déberlinisation, n'est-ce pas ?
Voilà, c'est ça. Alors ce thème de déberlinisation est africain en réalité, parce que vous avez tout un mouvement des artistes, par exemple, qui parlent du fait que en réalité, l'Afrique est toujours restée à Berlin. C'est-à-dire que après donc le partage de l'Afrique et après la décolonisation, à la création donc de l'OUA, on a parlé d'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Ça veut dire que nous sommes toujours restés en Berlin en réalité, puisque les puissances coloniales se sont mises d'accord à Berlin ici, sur le tracé des frontières à Berlin en 1884-85.
Il y a un imaginaire de Berlin extrêmement fort qui pour nous Berlinois était peu connu jusqu'à présent.
Comme quoi cette question de la restitution des œuvres d'art aux Africains par les puissances coloniales européennes, c'est tout à fait pertinent d'en parler ici à Berlin. Que pouvez-vous nous dire par rapport à cette idée reçue selon laquelle 90% des œuvres d'art africaines seraient dans les musées européens ?
Ce chiffre de 90% est difficile à prouver. C'est difficile de dire ce qui n'est pas en Afrique, mais on peut dire assez facilement désormais après cette mission ce qui est en France et ce qui provient des pays d'Afrique dans leurs frontières actuelles au sud du Sahara. C'était l'objet de notre mission. On s'occupait de l'Afrique au sud du Sahara. Au musée du Quai Branly, qui est extrêmement bien documenté, qui dispose d'inventaires accessibles online et avec l'équipe duquel on a extrêmement bien pu travailler, se trouvent 70 000 objets. Et le terme d'objet est difficile parce que pour les Africains, souvent, il s'agit de sujets, d'ailleurs, ces pièces de musée, 70 000 pièces venues de l'Afrique au sud du Sahara dans la longue histoire des collections du musée du Quai Branly, c'est-à-dire sur à peu près 150 ans. Et sur ces 70 000 objets environ, près des deux tiers sont venus avant 1960. Ils sont arrivés donc à l'époque qu'on appelle l'époque coloniale des différents pays. Et ce dont on s'aperçoit en plus, c'est que ces objets venus de l'Afrique du Sud du Sahara avant 1960, c'est-à-dire pendant que la France était une puissance coloniale en Afrique, viennent principalement des pays colonisés par la France. Donc on voit bien qu'il y a un lien très étroit entre l'histoire des collections et l'histoire de la colonisation. Et la certitude que nous avons après ce long travail, ce travail scientifique appuyé, c'est qu'il y a une corrélation totale entre la manière dont la France a exploité, par exemple, les richesses qui étaient dans le sol, les richesses naturelles et les richesses culturelles. La venue en Europe d'objets qui ont été considérés en Europe ensuite comme des objets d'art africains n'est pas une succession de hasards, une succession d'épisodes scientifiques, d'expéditions scientifiques qui seraient accumulées un petit peu par hasard. Il y a un réel système d'exploitation culturelle, au même sens où il y a un système d'exploitation des sols et de la force humaine aussi.
Bénédicte Savoie, avec Felwine Sarr, vous préconisez un nouvel outil juridique qui permette de restituer ces œuvres d'art aux pays qui le demandent.
Absolument, nous avons donc mené ce long travail main dans la main avec des juristes qui ont proposé un dispositif juridique qui permettra des restitutions définitives d'objets qui seraient réclamés par les États africains. Et en effet, la réclamation, la demande est la base du processus. Pour que le processus soit déclenché, il faut qu'il y ait réclamation.
Oui, mais c'est intéressant ce que vous dites là.
Omar Diallo.
Oui, c'est très intéressant ce que vous dites. Premièrement, c'est un acte qui va nous permettre d'avoir une autre vision des rapports nord-sud, des rapports entre pays colonisés et pays colonisateurs. Et donc là, ça ouvre des perspectives intéressantes pour l'avenir. C'est-à-dire qu'on va finalement comprendre ce qui s'est passé et ensuite on va essayer de trouver des perspectives d'échanges possibles entre pays colonisés et pays colonisateurs. Et le deuxième aspect qui me paraît intéressant, la balle est aussi, dans une certaine mesure, dans le camp des pays qui ont perdu les objets d'art, mais ces pays auront maintenant la capacité, ou en tout cas, il y aura un cadre juridique qui peut les permettre maintenant de récupérer un certain nombre d'objets d'art.
Omar Diallo, j'aimerais vous demander, en ce qui concerne justement la communauté africaine, berlinoise, que vous connaissez bien, quel est le ressenti, quelles sont les attentes?
Alors, en ce qui concerne la communauté africaine, il y a toujours un sentiment d'injustice. C'est-à-dire qu'on nous a volé quelque chose, on nous a pris des choses contre notre propre volonté, et donc ces choses nous appartiennent. Et non seulement il y a les objets d'art, mais ce qui est intéressant, il faut analyser un peu les rapports nord-sud, c'est-à-dire pays colonisés, pays dominateurs et tout. Et donc, la plupart des Africains qui vivent à Berlin ont toujours le sentiment de deux poids, deux mesures.
Voilà. Jusqu'à présent, ces objets, quand ils ont circulé non pas en général ou très rarement du nord vers le sud, mais Paris a pu prêter à New York, Paris a pu prêter des objets à Berlin. Il y a eu quelques expositions de prêt ou Paris prêté à Bamako, par exemple, mais ça retournait à Paris. Et ce monopole de la mobilité, là, il faut que ça s'inverse. Il faut que ce soit Bamako, il faut que ce soit Dakar, il faut que ce soit Cotonou et d'autres capitales, ou pas capitales d'ailleurs, Yaoundé ou Fumban, qui décident, elles, ces capitales, ces États, de prêter. Alors pourquoi pas prêter à Berlin, pourquoi pas prêter à Paris, et pourquoi pas prêter entre elles ces capitales, puisque, et c'était une des choses qui nous a beaucoup touchés, Felwine Sarr et moi, de comprendre que les objets ayant été pris dans des contextes régionaux qui n'étaient parfois pas encore divisés par les frontières créées à la conférence de Berlin, ces objets appartiennent en fait actuellement à des communautés qui sont transfrontalières, et nos collègues africains nous disaient, voilà, si on récupère des œuvres qui circulaient à l'époque de leur vie sociale dans la vallée du Niger, eh bien, pourquoi les fixer dans une de nos capitales actuelles? On les fera circuler et ça nous refera prendre conscience de notre existence, de notre surface, de notre rayonnement transfrontalier. Et toutes ces questions-là, bien sûr, on peut en parler à partir des œuvres d'art, à partir des patrimoines. C'est une petite clé pour entrer dans la question, mais c'est une question bien plus vaste, bien plus difficile, celle de la mobilité des objets, c'est aussi celle de la mobilité des personnes, bien sûr.
Omar Diallo, hein, qu'est-ce que vous pensez de ce programme préconisé par Bénédicte Savoie, qui, je le rappelle, est historienne de l'art, qui était une des premières à alerter en disant « Attention, la question des restitutions des œuvres d'art, ça va être un vrai sujet au XXIe siècle, on ne pourra pas faire sans ». En tant que chef de la Maison africaine de Berlin. Qu'est-ce que vous nous dites ?
Une chose simple qui me frappe toujours, j'appelle ça la force symbolique. C'est-à-dire qu'un symbole fort qui donne assurance, qui donne des perspectives de vision, qui donne le courage, qui donne l'imagination pour un certain nombre de pays africains de travailler ensemble, qui ont souffert de cette division, qui ont souffert d'être dépossédés des choses qui les appartiennent, parce que justement ces pays n'étaient pas dans des situations qui leur permettent de conserver, d'enrichir et de développer encore. Et je pense que objet d'art, bien sûr, mais c'est beaucoup plus qu'objet d'art. C'est-à-dire que c'est le symbole, enfin, que les États qui ont pratiqué le colonialisme se disent que nous n'avons rien à cacher, ça s'est passé, c'est de l'histoire et tout. Travaillons finalement ensemble pour dégager des perspectives d'avenir.
Bon, moi je crois, Bénédicte Savoie, que vous allez continuer à discuter tous les deux ici à Berlin.
Absolument, grâce à vous.
Grâce à vous, effectivement.
Merci à tous les deux.
Merci.
Africa Os, en mémoire de la colonisation, c'était un nouvel épisode de La Marche du Monde, enregistré à Berlin par Manu Pochez et mis en onde par Steven Elsley. Tous mes chaleureux remerciements à Omar Diallo, Joachim Zeller, Christian Kopp, Bénédicte Savoie, dont vous retrouvez les sites internet et les références bibliographiques sur la page de La Marche du Monde. Grand merci également aux joueurs de Cora, Jennifer Lissako. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook, écrivez-nous marche.monde@rfi.fr, réagissez. Podcaster cette émission, c'est la vôtre.
Kukubani banta maikuyate.